Alors, je sais que ce moment est sans doute un des plus difficiles de la semaine, puisque j'espère qu'on pourra dire que Dieu vit que ce quatrième jour était bon. Pour vous y aider, nous vous avons avec Agathe photocopié. C'est un écho, oui. Photocopier le plan de cet après-midi, puisque nous allons faire un topo à deux voix autour de, donc comme vous voyez le titre, Espérance chrétienne et Royaume de Dieu. Enfin, on s'est mis d'accord avec Agathe pour ne pas vous en dire de trop. Surtout, ce qui nous importe, c'est au moins d'orienter les choses. Parce que sur chacun des points que l'on a repris, il faudrait y passer une heure, quoi. Donc là où nous en sommes, c'est nous avions comme mission d'essayer d'avoir bien écouté tout ce qui s'était passé depuis 3 jours. Et spécialement d'avoir bien écouté les interventions qui nous disaient des choses sur le désespoir, enfin sur le rapport de la lumière à la nuit, sur donc là spécialement la place de la résurrection du Christ, et puis aussi ce que nous avons fait hier après-midi, qui était une mise en bouche du chemin que nous vous invitons, on va vous inviter à prendre cet après-midi, un peu appuyé aussi par ce que nous avons découvert ou partagé ce matin. Étant entendu que, comme vous l'avez vu ce matin, cette question de l'espérance, elle est toujours forcément précédée des 3 autres questions qu'il y avait dans l'exposition de ce matin. Je vous les rappelle, quelquefois vous les auriez oubliées, la création, le mal, le salut. En introduction, si j'avais du temps, mais c'est peut-être pas la peine, puisque de toute façon on n'a fait que de parler de ça, ne serait-ce que le premier matin, comme exemple avec l'écologie, avec l'environnement. Eh bien, je vous mettais en introduction que le 21e siècle était sans doute marqué par cette caractéristique de la perte de l'humain. C'est vrai qu'au cours des siècles, l'homme a traversé forcément des crises, hein, et ces crises l'ont touché ou personnellement ou individuellement. Et déjà, donc, dans ces crises-là, il a cherché des moyens de s'en sortir ou des chemins pour s'en sortir. Mais il me semble, c'est pas de moi, hein, c'est, j'ai lu ça quelque part, mais que le 21e siècle, et peut-être nous avons dit ça l'autre matin, le 21e siècle, la crise réside d'abord et avant tout par la perte de l'humain qui abolit d'une certaine manière toute échelle de valeur, qui entretient l'individualisme. Et c'est vrai, on sent bien que rien d'humain aujourd'hui, si je vais un peu rapidement, hein, rien d'humain aujourd'hui n'échappe à l'emprise de l'argent roi. On a beau faire le tour des choses, on est toujours confronté à ça. Et la crise d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sent bien que c'est quand même ça qui est derrière. Et ça veut donc dire que les causes de cette crise, on pourrait même dire les causes du sous-développement actuel dans certains pays, les causes de la crise même, par exemple en Europe, ne sont pas seulement d'ordre matériel. Ce qui est intéressant, ce qui est frappant plutôt, c'est de se rendre compte que cette crise-là, que ces causes-là, eh bien, elles mettent en œuvre ou elles nous confortent dans le souci de manquer de solidarité au maximum, de manquer de fraternité entre les hommes et entre les peuples, si on veut vraiment réussir. Je retrouvais cette phrase de Benoît XVI qui nous dit, parce que souvent on dit, mais enfin il y a la globalisation, la mondialisation, et il dit, la société toujours plus globalisée nous rapproche, mais ne nous rend pas frères. On n'a jamais été aussi proches, et par le Internet et tout ce que vous voudrez, et pourtant, ce n'est pas pourtant pour autant que la proximité nous rend frères. Je ne vais pas beaucoup insister là-dessus parce qu'on en a causé, et puis enfin, ce serait vraiment trop incomplet que d'en rester là. Mais il me semble que nous avons à travailler justement sur le problème de l'humanisation. Ce n'est pas pour rien que le bouquin de, je sais plus son nom, sur les indignés, Essel, a eu un tel succès. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que il est dit que c'est important de s'indigner, puisque Simone de Beauvoir elle-même disait, on devient vieux quand on perd la capacité de s'indigner. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'indigner quand le véritable humain est mis à mal. Il semble que nous soyons dans cette situation-là. Mais ça m'a amené à la suite d'une recherche de Christophe Théobald dans ce bouquin-là qui s'appelle Transmettre. C'était aux Semaines sociales de France. Et où il fait un petit développement qui est beaucoup plus grand que celui que je vais faire. Mais qui se dit, mais alors si on se demandait où est-ce qu'il est l'humain aujourd'hui? C'est quoi être humain? C'est quoi le véritable humain? Et je vous mets dans le papier que vous avez trois choses que vous pouvez développer à votre manière. Là où l'homme est attentif aux besoins fondamentaux et élémentaires de la vie humaine, là où est reconnue la dignité de l'être humain en dehors de toute autre considération, et il n'est pas de vie humaine sans foi. Pour développer ça en quelques minutes, quand nous disons là où l'homme est attentif aux besoins fondamentaux et élémentaires de la vie humaine, bien sûr, je pense aux droits de l'homme, aux articles 25 et 26 spécialement. Je pense à la doctrine sociale de l'Église, mais d'abord et avant tout, je pense au chapitre 25 de Matthieu. J'ai toujours été frappé de voir que ce chapitre-là, qui est le plus fondamental pour dire la proximité de Dieu, eh bien ce chapitre-là, pardon, ce passage-là, ne fait que de reprendre les choses les plus élémentaires. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'étais un étranger. J'étais nu. J'étais malade. En prison. C'est-à-dire la faim, la soif, l'habillement, l'identité par rapport à l'étrangeté, la liberté. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder ses besoins élémentaires en termes matériels, mais aussi dans ce que je vous disais tout à l'heure, que souvent les problèmes matériels entraînaient des questions liées à la solidarité et au vivre ensemble. Dieu sait si hier vous avez insisté dans les exemples que nous avions sur cette réalité de l'identité. Donc, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Hein, c'est vrai que on voit bien, je crois que vous le disiez hier, je ne sais plus quand ça, parce qu'il y a des choses qui se mélangent dans ma tête, mais vous disiez, enfin non, c'est toi, Denis, qui disais, à propos, je ne sais plus quel texte, il est évident que, ah ben c'est avec Élie, hein, il est évident qu'avant de faire des grands discours, si quelqu'un a faim, donnons-lui à manger, quoi. Hein. Et donc ça montre bien que lorsqu'on n'a plus ça, ça nous emmène à toutes les idéologies possibles et imaginables. Hein? Si on veut marteler à coups de marteau dans la tête des gens des idéologies fussent-elles religieuses, alors que la personne n'est pas en forme pour le faire, eh ben on est complètement à côté de nos pompes. Ce qui est premier, c'est j'avais faim, j'étais nu et j'avais soif, etc. Donc vous voyez, j'insiste pas. La deuxième chose qui est notée, c'est la dignité. La dignité de tout l'être humain. Et là, je vous renverrai bien à la Constitution Gaudium et Spes du Concile, qui véritablement a été un des premiers textes, au moins au niveau catholique, à souligner cette importance de l'homme, quoi, hein, et de sa capacité de relation avec les autres, et spécialement la dignité de l'être humain. Une dignité qui, de temps en temps, lorsqu'elle est en face d'un certain nombre de personnes plutôt en difficulté de montrer immédiatement leur réalité humaine, doit toujours pouvoir être protégée, puisque je ne peux jamais enfermer quelqu'un dans ce qu'il me montre avoir à un moment donné de son existence. C'est un être qui est aimé de Dieu. Et donc, qui a ce droit à la reconnaissance et à l'identité de sa dignité profonde, qui est celle de reçue par le Dieu Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, ça pose beaucoup la question de la fraternité entre nous, quoi. La fraternité entre les peuples, et puis, faut pas aller chercher loin. Moi, je dis fréquemment à l'heure actuelle que dans le monde catholique, eh bien, les prêtres entre eux ne sont pas très fraternels. Et pourtant, Dieu sait si on fait de beaux discours sur la question. Mais on peut généraliser et se poser la question comment chacun à son niveau a cette réalité de ne pas prendre, de ne pas respecter l'autre dans sa dignité. La troisième chose que je vous note, c'est que il n'y a pas de vie humaine sans foi. Qu'est-ce que je pense derrière ça? Normalement, il doit y en avoir à se balader. Hein. Moi, j'en ai besoin d'une, c'est tout. Oui. Hein. C'est Théobald qui me faisait penser à ça. C'est qu'il fait un jeu entre les deux mots de croyance et de créance. Puisque, bien sûr, ça a la même étymologie. Et il va jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'autre chemin humain que de faire crédit. Donc, si vous voulez, ce langage élémentaire traverse tous les domaines de nos existences. Vous voyez bien, quand je mets il n'y a pas de vie humaine sans foi, je ne suis pas à dire foi chrétienne ou autre foi. C'est une foi qui est constitutive de l'anthropologie. Et donc, si vous voulez, j'ai trouvé intéressant de faire un jeu entre le mot croyance et créance, puisque faire crédit, c'est la même chose que se fier à quelqu'un, c'est la même chose que éprouver la fiabilité de quelqu'un, parce que c'est vrai dans le monde financier et économique, mais c'est vrai aussi dans nos relations intimes, c'est aussi vrai dans la sphère religieuse. Donc c'est l'ensemble de nos échanges, ça a quelque chose à voir avec l'espérance, ça, l'ensemble de nos échanges, voire toute notre vie en société est fondée sur une confiance inaugurale ou initiale. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis précédé moi-même par la confiance que quelqu'un me fait, celle de mes parents, celle de d'autres personnes, enfin, dans toutes les situations que je peux vivre. Et à la différence de l'animal, je suis un être inachevé. Et ça, c'est vrai tout au long de ma vie. Et je dirais que c'est cet achèvement, inachèvement, pardon, constitutif qui m'appelle à faire confiance à l'autre, qui m'appelle à croire en l'autre, qui m'appelle à ne pas m'en sortir tout seul. Et ça suppose donc de passer un seuil, le seuil de la peur. Il me faut laisser tomber la peur que je puis avoir devant l'inconnu qui est en face de moi. Il me faut passer donc de cette peur-là au simple courage d'être et de vivre avec l'autre. Alors bien sûr, vous allez choisir avec qui, hein? Mais souvent, je prends cet exemple-là. Pour moi, la foi, c'est comme la marche. Et c'est sans doute pas innocent que ce soit la marche. Parce que ça veut dire processus, ça veut dire mise en route. Et la marche, c'est forcément, à un moment de mon existence, lever l'un de mes deux pieds. Alors, je ne parle pas pour toi, Alice, car il faut faire attention à tes deux. Hein? Mais lever l'un de mes deux pieds. Et pendant que je lève l'un des pieds, l'autre est assuré par terre, autrement je tombe. Et lorsque j'ai mon pied en l'air, il me faut accepter de faire confiance, car je ne sais pas où je vais le mettre, le pied en l'air. Et c'est seulement lorsque j'ai lancé mon pied en l'air par terre qu'il m'est possible de relever l'autre pied pour continuer la marche. Vous voyez donc qu'en fait, la marche, c'est une confiance. C'est une confiance, c'est je fais créance. Et on voit bien, quand on a plus de difficultés, on a moins confiance dans ses jambes. Donc, ce simple courage de vivre, c'est d'en faire confiance à un ailleurs que soi, c'est tout à fait la question des rites d'initiation. Et vous voyez bien que cette confiance constitutive, elle est forcément la nourriture de l'espérance. Donc ça veut donc dire que ces seuils que j'ai à franchir, je ne peux pas les franchir seul. Et ces nouvelles naissances supposent des relations qui nous précèdent. Donc, ce que je vous disais, parentale, amicale. Hein. Nous sommes, si j'ose dire, engendrés à la confiance par d'autres. Par d'autres qui nous ont fait confiance. Il ne faut pas s'étonner quelquefois qu'un certain nombre de personnes manquent de confiance parce que peut-être que dans leur enfance, ils n'ont jamais eu de confiance donnée, quoi. Il hein? Faut pas exagérer non plus là-dessus, mais il y a quand même des chemins qui sont vrais. Hein? Mais cela ne m'empêche jamais de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Même si je suis engendré à la confiance, j'ai toujours la possibilité de dire oui ou non. Hein? Ça veut donc dire que c'est toute mon existence qui est, j'appellerais, en réactivation de l'acte de foi inaugural. Et ça, c'est vrai grâce à des passeurs. Et donc, je mettrai l'un d'eux, de ces passeurs, peut-être Jésus, lui qui s'intéresse d'abord et avant tout à cette foi comme unique source de vie, le nombre de fois que Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Hein, la femme, ses hémorragies, les porteurs et le paralytique, le centurion. Et Jésus donc nous apprend qu'il n'y a pas de vie humaine sans foi. Ça n'empêche en rien la difficulté de croire en la vie, hein, parce qu'on a vu le mal sous toutes ses formes qui traverse cette vie, c'est la maladie, c'est le malheur possible, ce sont les échecs, ce sont les séparations, c'est tout ce que nous avons essayé de dire depuis lundi. Ça n'enlève absolument pas non plus que je ne puis jamais croire à la place de l'autre. La totale liberté existe, hein? Et donc ça ne dépend pas de moi. Et puis, ça n'enlève pas non plus la difficulté de la transmission. C'est tout à fait le sujet des semaines sociales. Donc, si vous voulez, en même temps, je dis que il n'y a pas de vie humaine sans foi, et en même temps, se maintient en permanence la liberté. Je vais vite parce que je vais passer à la porte. Il nous faut répondre au signe des temps. Simplement, je vous passe un texte que vous pourrez relire ce soir si vous voulez. Simplement, je vais attirer l'attention sur quelques-uns signes des temps. Donc, en définitive, c'est la grande question, c'est que dans cette expérience chrétienne et royaume de Dieu, je ne peux pas fonctionner comme fonctionnaient mes grands-pères. Donc, il faut bien que j'essaie de me préciser quels sont donc les défis d'aujourd'hui, quels sont donc ce que Jean 23 appelait les signes des temps. Et vous trouvez cela au milieu du texte. Vous pourrez lire la suite après ou ce soir. Vous avez en bas de la première colonne, sur ce point, le Concile ne fait qu'évoquer une mutation dont l'ampleur ne cesse de s'affirmer. Aujourd'hui, on parlerait plus directement d'une véritable fracture culturelle à l'intérieur de toutes les institutions, famille, mariage, école, loisirs, entre les générations et bien sûr entre la société et les églises. Il est évident que la rupture culturelle ne concerne pas seulement des problèmes de langage, mais des représentations, des manières de ressentir les choses et d'agir, des attitudes assez éloignées de ce que la génération des seniors a connu. Tout cela est largement orchestré et amplifié par la culture médiatique. Et ça ne serait pas sérieux de notre part si nous pensions une humanité qui ne soit pas marquée par ces signes des temps. Et ce que je résumerai en disant que qu'est-ce qui nous marque dans ces signes des temps, et il y a beaucoup d'autres choses. Il est évident que la recherche de l'autonomie personnelle fait donc que jusqu'à même que l'autonomie devienne indépendance. De même aussi le désir du seul épanouissement individuel. Et puis l'omniprésence de la technologie, qui n'est pas sans question. Mais alors, vous voyez que derrière tout ça, c'est au cœur de toutes les grandes situations de société que l'on se trouve. Et donc, en fait, je me suis noté qu'en fait, nous sommes passés, et après je passe la parole à Agathe, nous sommes passés d'une culture marquée par l'autorité. Vous pouvez, sur votre papier, si vous écrivez, vous mettez autorité à gauche, hein, et passer d'une autorité à une autonomie. Nous sommes passés de la stabilité à l'imagination, donc à l'invention, donc à penser le monde autrement. Nous sommes passés de la vérité à la recherche, ce qui veut dire que la vérité s'est déplacée, est elle-même quelque part. Nous sommes passés de la transmission à la, comment je dirais, à l'invention, à la, je cherche mon mot, je ne trouve pas, l'innovation, merci. Hein? On ne veut pas être comme son papa ou comme son grand-père. On est passé de la durée à l'immédiateté. Ce sont que des petits éléments, mais qui transforment le tout de nos réalités humaines. Et si c'est vrai ce qu'on va dire cet après-midi, qu'il n'y a pas de possibilité d'espérance chrétienne si elle n'est pas enclenchée, inscrite profondément dans notre humanité, mais non pas une humanité que celle que je veux, il faut bien aussi que j'accepte celle dans laquelle je suis, eh bien nous ne pourrons pas vivre l'espérance chrétienne. À toi, Agathe.
Merci. oui, ça là.
Ah bah oui.
Comme ça va.
C'est
oui, ça, oui, ça a l'air d'aller. Oui, dis rien, ça va. Pour pouvoir répondre au signe des temps, pour pouvoir répondre, encore faut-il entendre un appel. C'est pourquoi dans un second temps, j'essaierai de développer ceci, croire que Dieu appelle de façon nouvelle à travers la nouveauté du temps, de ce temps précis d'aujourd'hui. Et pour donner un contenu à cette affirmation, croire que Dieu appelle de façon nouvelle, je me réfère à la prière, à la manière dont nous nous adressons à Dieu quelquefois dans la prière liturgique. Nous nous adressons au Dieu qui est, qui était et qui vient. On pourrait s'attendre au Dieu qui est, qui était, qui sera. Non, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alors, vers quelle réalité cela nous oriente-t-il, ce présent, le Dieu qui vient ? La même, me semble-t-il, que celle qu'évoquait Denis quand il nous disait, si j'ai bien compris, qu'affirmer la résurrection de Jésus, c'est du même mouvement affirmer sa venue en notre histoire. Car il vient, il continue de venir. Aujourd'hui, ici et maintenant, dans le monde qui est le nôtre. C'est ici que Dieu vient. Pour reprendre les termes de l'Écriture, c'est aujourd'hui le jour favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, dans cette perspective, l'espérance n'est pas tellement un dynamisme qui nous projetterait dans un au-delà du temps. Et le geste que je joins à la parole a de l'importance. C'est pas tellement un dynamisme qui nous projetterait vers un au-delà du temps, mais plutôt un dynamisme qui nous projette dans l'au-delà de ce temps présent. C'est-à-dire, c'est un dynamisme qui est habité de notre confiance dans les potentialités de salut de ce temps. Un dynamisme qui est habité de cette confiance que ce monde a vocation à devenir royaume de Dieu. Alors, discerner les signes des temps dans cette perspective, ce serait donc apprendre à découvrir, à entendre, à sentir, à percevoir l'appel que nous y adresse le Dieu qui vient ici et maintenant. Espérer serait entrer dans l'espérance de Dieu pour ce monde, humanité et cosmos compris. Et quelle est cette espérance de Dieu pour ce monde? Ce désir, cette passion, pour reprendre les mots de Luther, c'est qu'aucun de ses enfants ne se perde et que la création, grâce à eux et grâce à lui, le Dieu qui vient, n'oubliez pas le « et » du même mouvement, grâce à eux et grâce à lui, le Dieu qui vient, que la création soit conduite à son accomplissement. devenir un monde habitable pour tous, où il fait bon vivre ensemble, dans la concorde, la justice et la paix. C'est aujourd'hui qu'il faut espérer, c'est aujourd'hui qu'il faut discerner l'appel, c'est aujourd'hui qu'il faut avancer pas à pas dans la nuit de l'impuissance éprouvée peut-être, dans la démaîtrise sans doute, mais habité d'une foi à déplacer les montagnes. Il m'apparaît que cette formulation prend tout son sens lorsqu'on éprouve l'incapacité de temps et temps autour de nous et notre propre incapacité. J'ai découvert là en feuilletant le livre de Christian Salençon sur Christian de Chergé, une théologie de l'espérance. Cette citation de Christian de Chergé, c'est toujours par-delà l'horizon de notre raison que Dieu nous vient, quelles que soient nos fois respectives. Et nous pouvons vraiment nous attendre à du nouveau chaque fois que nous faisons l'effort de déchiffrer ces signes aux horizons des mondes et des cœurs. Alors, croire que Dieu appelle de façon nouvelle, dans la nouveauté du temps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, il me semble que nous avons, les uns et les autres, commencé déjà de répondre ensemble ou de partager les réponses que nous portions déjà en nous au cours de cette semaine. Si vous reprenez comme ça rapidement dans votre tête les domaines que nous avons évoqués depuis lundi jusqu'à hier après-midi, hein, ces lieux où naît en nous la révolte, où peut se trouver aussi la tentation de la résignation devant l'injustice, la pauvreté, la misère, le pouvoir de l'argent, l'abdication du politique, etc., etc. Alors, c'est dans ces domaines-là qu'il nous faut discerner à quelle advenue du royaume nous sommes appelés à participer. Et pour reprendre la réflexion de Louis-Michel dans la première partie, là, quelle ligne de fond conduisant à plus d'humanité découvrons-nous dans des pratiques nouvelles. Enfin, j'essaie de traduire en langage sécularisé croire que Dieu appelle de façon nouvelle dans la nouveauté du temps. Quelle ligne de fond conduisant à plus d'humanité découvrons-nous dans des pratiques nouvelles ? C'est peut-être aussi bien l'agriculture raisonnée que le partage des savoirs, que les nouveaux rapports producteurs-consommateurs, que la rébellion des paysans sans terre, que le charisme de Cosa qui transforme sa maison en notre maison pour tous, enfin, etc., etc. Quelle ligne de fond conduisant plus d'humanité découvrons-nous dans les mouvements d'indignation, de révolte, de libération, etc. Alors, entendre l'appel de Dieu au cœur de ces réalités-là, et donc un appel qui a une originalité parce qu'elle correspond à l'originalité de ce temps qui est là, fait que ces signes des temps deviennent pour nous, peuvent devenir pour nous, signes du royaume qui advient. Et c'est la seconde partie de mon intervention. À l'école de Jésus, le prophète du royaume de Dieu, discerner les signes du royaume qui advient. Bon, là, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose. Vous avez une familiarité aux Écritures qui vaut bien la mienne, j'en suis certaine. Donc, simplement, c'est vous partager la manière dont, personnellement, je relis cela. Voilà. Quand Jésus parle de lui-même comme celui par qui le royaume de Dieu arrive, quand les disciples de Jean lui envoient dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» il se réfère à un texte d'Isaïe. « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Nous avons là une traduction du salut en termes extraordinairement concrets. Il s'agit de voir alors qu'on était dans l'aveuglement. Il s'agit de se remettre à marcher alors qu'on avait baissé les bras et qu'on s'était dit « comme Élie, ça suffit comme ça, je m'assois et je meurs ». Il s'agit de se mettre à entendre, de se remettre debout ou de se laisser remettre debout. Et cette manière de dire le salut comme un devenir humain, comme disait Louis-Michel, elle trouve son achèvement ultime en Christ, le chemin, la vérité et la vie. Le salut en Christ, salut de ce monde et de chacun en ce monde, concerne toutes les dimensions de l'existence sociale et individuelle. Présent au monde, engagé dans le monde, solidaire et partenaire du monde, nos églises et chacun de nous à l'intérieur d'elles sont appelés à se situer dans ce mouvement du dialogue continu entre Dieu qui offre son salut, sa visite, son hospitalité aux hommes et le monde qui, pris en toutes sortes de mots, aspire à la délivrance, au bonheur et à la vie pacifiée. Alors rapidement, prenons un petit peu de temps pour regarder la manière dont au témoignage des évangiles, Jésus se manifeste prophète du royaume de Dieu, parce qu'il me semble que ça nous ouvre des chemins de discernement, des signes des temps comme signes du royaume. Alors d'abord, Jésus prophète du royaume en acte et en parole. Alors qu'on se réfère à l'évangile de Marc, en son chapitre 1er, versets 14 et 15, ou à celui de Matthieu, en son chapitre 4e, verset 17, verset 17, chapitre 1er, 14 et 15. Qu'on se réfère à l'un ou l'autre de ces évangélistes, la prédication inaugurale de Jésus en Galilée, après son baptême par Jean dans le Jourdain, s'exprime dans les mêmes termes. « Repentez-vous, le royaume des cieux est tout proche. » Si je prends la formulation de Marc, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est devenu tout proche. » Le temps est accompli, le moment est arrivé où l'attente messianique qui habite les milieux fervents du judaïsme au premier siècle va se faire réalité concrète dans l'histoire. Mais sans doute que ce royaume de Dieu, dont Jésus va se faire le prophète, risque de déconcerter plus d'un par l'idée qu'il s'en fait. Et c'est pourquoi, aussitôt après « le royaume de Dieu est devenu proche », nous entendons « repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Le royaume de Dieu s'est fait proche, il est là en la personne de Jésus. Il s'agit de le reconnaître et de l'accueillir dans les paroles et les pratiques de Jésus. Mais pour ce faire, il faut être prêt à la conversion, être prêt à ce retournement, être prêt à se laisser déplacer dans ses certitudes, ses convictions, ses représentations. Et aussitôt cette annonce, l'évangile de Marc ce que Babu, là, un exégète protestant, dit, quand le monde nouveau de Dieu est présent, c'est-à-dire quand le royaume de Dieu advient, les pouvoirs hostiles à l'être humain doivent céder. Et c'est comme ça qu'il exprime ce qu'il voit de la manifestation de Jésus dans l'évangile de Marc à travers toute une série de rencontres qu'on appelle, nous, des récits de guérison. Et les récits de rencontres qui accompagnent ce ministère public de Jésus, elles nous montrent les visages de ces pouvoirs qui sont hostiles à l'être humain. Dans les évangiles, il porte le nom de Satan, de la maladie ou du handicap sous toutes ses formes, avec leur cortège d'exclusion et de rupture de lien social. Et c'est aussi la loi religieuse elle-même quand elle se fait aliénante. Et dans ces récits de rencontres, il nous est donné de voir que la présence de Jésus fait céder ses pouvoirs hostiles à l'être humain. Par la médiation de la rencontre de Jésus, la personne qui le rencontre expérimente une délivrance, une libération, un salut. Et l'évangile de Marc utilise une multiplicité de verbes pour dire ce salut. Bien sûr, quelquefois c'est le verbe sauver, mais d'autres fois c'est le verbe soigner, guérir, rétablir, tirer d'affaire. Tout ceci nous donne à comprendre que la rencontre de Jésus, l'accueil, la confiance faite par la personne qui vient à la rencontre de Jésus, lui permet d'expérimenter pour elle l'advenue du royaume. Un avenir lui est ouvert. Elle devient en capacité de vivre autrement sa relation à autrui, sa relation à la création qui l'entoure. Et ce qui est manifeste dans les évangiles, c'est que ce salut, il est pour tous sans discrimination. Hommes et femmes, juifs et étrangers, publicains, prostituées, pécheurs, etc. Et cet avènement du monde nouveau de Dieu se traduit aussi par l'annonce d'un pardon offert à tous de la part de Dieu. Alors, prophète du royaume en acte et en parole. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, il le fait souvent sous forme de parabole. Alors, je ris parce que peut-être vous allez entendre des choses que vous avez lues ce matin. Merci. Ah ben je ne sais pas. Dans le récit de ces histoires concrètes que sont les paraboles, Jésus propose un chemin de sens à ses auditeurs. Et pour cela, il cherche à les rendre attentifs à une situation qui leur est ordinaire, de telle sorte que d'emblée, la communication apparaît simple. Bon, voilà, c'est un semeur qui sort pour semer. Bon, c'est deux hommes qui montent au temple pour prier. Bon, c'est un vigneron qui sort dans la rue à différentes heures pour appeler des gens à travailler chez lui. Bon. Mais l'originalité de ce récit, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une pointe. Il en va du royaume de Dieu comme, c'est là que je retrouve le comme d'hier avec Élie, comme un silence bruissant, ou comme le bruit d'un silence ténu. Enfin bon, il en va du royaume de Dieu comme. Le comme indique qu'il est important de ne pas rester enfermé dans ce qu'on connaît déjà de cette situation, mais d'ouvrir l'oreille, d'ouvrir le cœur et de se dire, ah, pourquoi comme? Quel est donc le nouveau qui est proposé? Quel est le nouveau que je dois entendre? Et le nouveau, c'est que, par exemple, celui que tout le monde croyait juste et qui effectivement était d'une rectitude par rapport à la loi à tomber à genoux devant, ne rentre pas chez lui justifié. Mais l'autre, qui s'était reconnu dans sa situation de pécheur. L'étonnant, c'est que, à la fin de la journée de travail, tout le monde reçoit la même chose. Et que face à la rébellion de ceux qui disent ce n'est pas juste, il faut entendre. Mais je ne te lèse pas, je t'avais embauché pour ce prix-là. Pourquoi ton œil est-il mauvais alors que je suis bon? La pointe, c'est cet inattendu de sens en vue de provoquer l'étonnement et le questionnement des auditeurs. Et donc, en vue de leur permettre de percevoir la dynamique de cette réalité appelée royaume de Dieu, qui implique un renversement de nos valeurs, qui implique une priorité donnée à l'amour, etc. La parabole, pour qui sait l'entendre, devient chemin de compréhension et de reconnaissance du royaume de Dieu ici et maintenant. Pour qui peut et veut entendre, les paraboles de Jésus font paraître, alors là je cite Christophe Théobald, parce que voilà, ça me parle bien, font paraître les ultimes possibles qui se cachent dans les styles de vie du monde, dans les récits du quotidien du monde. Les paraboles donnent à entendre que ce monde, tel qu'il est, et en dépit de ses cécités et de ses violences, a vocation de s'ouvrir au monde nouveau de Dieu. Apprendre à accueillir cette profondeur des réalités quotidiennes, c'est devenir apte à discerner les signes des temps, la proximité du royaume qui ne cesse de venir. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui quand nous voulons lire les signes du royaume? Je vais aller rapidement, je te promets, Louis-Michel. La compréhension des signes des temps demande d'abord une capacité d'écoute de la part des chrétiens. Une écoute des hommes et des femmes dont ils se font proches. Une écoute des soubresauts qui accompagnent l'éclatement du monde aujourd'hui dans ses structures sociales, économiques et politiques. De manière à y discerner les germes du neuf qui commence à se faire jour. Et là, je n'insiste pas plus parce qu'il me semble que c'est le travail que nous avons fait ensemble hier après-midi. Quel que soit le texte sur lequel nous avons travaillé, vous avez essayé d'exprimer à la fois la dureté de la situation, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit collective, et nous avons ensemble entendu, que ce soit au cœur de l'article du journal ou au cœur des récits venus d'ATD Quart-Monde, nous avons entendu le neuf qui se faisait jour, la réalité nouvelle d'humanité qui se faisait jour dans la solidarité, dans le partage, dans la sortie de l'errance, dans la volonté de sortir de la misère, etc. Je ne le reprends pas, c'est... Scruter les signes des temps C'est aussi, me semble-t-il, partager le regard d'amour de Dieu sur le monde. Un regard qui veut discerner pour comprendre et accompagner, mais aussi pour accueillir dans les mutations d'aujourd'hui les possibilités d'un devenir inédit que nous ne connaissons pas, mais qu'il faut que nous soyons aptes à découvrir quand les germes en apparaissent, comme dit le prophète. Voici que du nouveau est en train de surgir, ne le voyez-vous pas ? Et pourquoi nous pouvons oser croire à ces possibilités où s'inscrit la présence créative de Dieu ? C'est parce que l'Esprit de Dieu qui conduit le cours du temps et rénove la face de la terre, comme nous l'avons chanté hier, est présent à cette évolution. Alors le monde dans lequel les chrétiens sont confrontés avec d'autres devient le terrain même du dialogue où ils peuvent confronter avec les autres leur interprétation de la réalité présente, confronter avec les diversités d'interprétation des traditions spirituelles, mais aussi les diversités d'interprétation de l'agnosticisme et de l'athéisme. Et alors, si nous savons discerner dans ce monde d'aujourd'hui les pouvoirs qui sont hostiles à l'être humain, comme disait Babu à propos de l'action de Jésus, eh bien nous pouvons participer à la destruction de ces pouvoirs hostiles à l'être humain ou les mettre en échec parce que, bon, jusqu'à la fin des temps, je crois qu'ils ne seront pas définitivement détruits. Mais nous savons qu'en Jésus, la mort a été vaincue, le mal a été vaincu, qu'il est présent à nos combats, enfin la puissance créatrice de la résurrection de Jésus est à l'œuvre. Et à cause de cela, nous pouvons participer dans la lutte contre ces pouvoirs hostiles à l'être humain, à l'avènement du royaume et à en découvrir déjà les signes et en les recevant à la fois comme cadeau de Dieu.
Agathe a dit plein de choses que... Non, mais c'est pas très très grave. Ça fait partie du travail en commun. On ne sait pas tout à fait ce que va dire l'autre, même si on a préparé ensemble. Donc simplement, je voudrais reprendre, enfin suivre le numéro 3 et la conclusion. En fait, vous voyez bien que ce que vient de nous dire Agathe, c'est ça nous ouvre, ou ça nécessite l'ouverture, que le christianisme dont nous sommes témoins, eh bien, soit un christianisme qui soit ouvert à l'espérance. Et donc, ça suppose que nous entendions l'appel à agir, chose que Agathe nous a dit en terminale. Et donc, si je reprends comme ça, sans trop regarder mes papiers, ce que je vous ai écrit, j'ai rajouté au fur et à mesure que tu posais, Agathe, il me semble que j'ai plus regardé les choses en attitude fondamentale. Quand je dis par exemple que c'est, mais totalement lié à ce que tu viens de dire sur la construction du royaume, moi j'aime bien, maintenant je dis pas trop le mot royaume de Dieu parce que je pense que les gens n'y pigent pas grand chose. Donc je dis le royaume de Dieu, c'est-à-dire le monde selon le. Enfin, à la mode de Dieu, quoi, si vous voulez, hein. À la manière de Dieu. Et ton monsieur protestant, il disait quoi ? Le monde nouveau de Dieu. Je crois que c'est le caractère nouveau qui est intéressant. Et je vous ai mis consentir à perdre. Et puis je me suis dit, c'est pas suffisant. Et donc en même temps que tu causais, j'ai rajouté consentir à perdre ce que nous avons, ce que nous pensons comme totalité. Hein ? Parce que si je pense les choses de mon côté comme totalité, cela m'emmène à l'enfermement. Je m'enferme dessus. Et pour certains d'entre vous m'ont souvent entendu parler des catoires, je pense qu'on peut l'appliquer là encore. C'est-à-dire consentir à perdre les catoires, c'est-à-dire le savoir, le pouvoir, le valoir et l'avoir. Hein? C'est pas grave, c'est des warts. Savoir, valoir, Avoir, pouvoir. Avoir, valoir, pouvoir. Ça couvre, si vous voulez, notre existence humaine, ça. Parce que chacun d'entre nous, on a besoin d'avoir un peu. On a besoin de pouvoir un peu. On a besoin de valoir un peu, il m'en manque un, et savoir un peu. Et le grand malheur, c'est quand je sais tout, quand je peux tout, ou que je pense pouvoir tout, etc. Et là, on est dans une incapacité d'espérance, puisque nous avons tout sur nous-mêmes. Nous n'avons plus à attendre quoi que ce soit de l'autre. Et donc, c'est pas fréquemment l'Évangile nous dit « Désapproprie-toi, essaie de sortir de ton enfermement personnel ». Et je crois véritablement, il n'y a pas d'espérance possible. Hein. C'est-à-dire, si on veut véritablement un christianisme ouvert à l'espérance, c'est forcément un christianisme qui est ouvert sur, non seulement sur soi, mais aussi sur l'autre. C'est-à-dire, le grand danger du contre-espérance, c'est le nombrilisme. La deuxième chose que je vous note, bon alors donc on pourrait en causer longuement de ça, mais c'est pas... C'est parce que quand je dis consentir à perdre les choses que je verrais comme totalité, c'est pour, ce que, un peu ce que tu disais, pour ouvrir à l'accueil de l'inattendu. Hein? Pour pouvoir devenir, oui c'est ça, apte à l'inattendu, au sens, à l'inattendu du sens, à l'inattendu de l'événement. Ça, vous l'avez sûrement fait l'expérience, hein, que parce que vous êtes ouvert à d'autres, vous avez ouvert enfin, plein de choses, votre avoir, votre savoir, votre valoir, tout ce que vous voudrez, il s'est passé quelque chose que vous n'attendiez pas. La deuxième chose, donc, c'est par rapport, et là je ne vais pas insister parce que tu viens d'y assister, et Denis aussi, hier, il y a beaucoup causé, simplement, par rapport au deuxièmement, le défi de l'espérance au cœur du mal, enfin, à la suite du Christ sur la croix, et Dieu sait si on a insisté là-dessus, mais j'ai essayé de reprendre des choses de Guéché, tout ça, qui dit ceci. Dans le tombeau vide, le vide est révélateur. Si c'était un tombeau plein, on est encore, vous voyez, sur la totalité là, hein, les premiers témoins n'auraient découvert qu'un mort, comme dans un tombeau. Il s'agirait d'un tombeau fermé. Il s'agirait d'une souffrance, d'un handicap à jamais mortifère. Il s'agirait d'un mur infranchissable. Or, il s'agit d'un tombeau ouvert, lequel alors devient plein, mais au sens où on le dit d'une grossesse, de la véritable présence, celle du ressuscité, qui cependant n'est pas ici. Présence de celui qu'il faut vraiment apprendre à rencontrer ailleurs, là où se fera la véritable rencontre. Vous savez, c'est tout à fait ce que le disent certains psychos ou certaines réalités humaines, enfin, de sciences humaines, pardon, quand on dit s'il n'y a pas de vide dans votre discours, il n'y a rien moyen de faire. C'est pas la peine. Vous ne pouvez pas entrer en dialogue avec qui que ce soit, puisque tout est plein. Et donc, il fallait que le tombeau soit vide pour que la résurrection puisse faire son chemin en nous aujourd'hui. Bon, vous voyez qu'on pourrait dire plein de choses là-dessus aussi. Troisième point, l'espérance suppose de vivre une perpétuelle libération de soi. Pour cela, je vous distribue un article pour que, mais ça pourrait se jouer sur d'autres parties, parce que derrière cette phrase que j'ai mis là, c'est tout le rapport à la vérité qui est derrière. Hein? Le rapport à la vérité. Et donc, je vous donne là un article de Denis Girard, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un théologien de l'Institut de Paris, qui est spécialement connaisseur du bouddhisme et du dialogue interreligieux. Et donc, il vient d'écrire un dernier bouquin que je trouve très intéressant, « Le dialogue à la portée de tous ou presque ». Ça, c'est son humour. Alors, quand vous rencontrerez Denis Girard, Vous ne pourrez que le reconnaître à son accent. Il a un accent merveilleux. Hein? Là? Ah non, il est canadien, lui. Hein, oui, canadien. Comment? Oui, mais il a été traîné sûrement au Canada parce que son accent ne trompe pas. Québécois, oui. Parce que le Québec n'est pas au Canada? C'est plus précis, d'accord. Alors, ce que je vous invite à faire, parce qu'on ne va pas tout regarder le texte, parce qu'il faut qu'on cause un peu, je vous invite à prendre le bas de la première colonne à gauche. Oui, parce que j'ai dû faire un trait dessus, d'ailleurs. Vous passez un long moment à définir le dialogue. Est-ce parce que l'on se trompe souvent à son sujet? Oui. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles certains croyants se découragent devant le dialogue interreligieux. J'entends parfois dire « Comment dialoguer alors que tant de différences nous séparent ?» C'est pour moi le signe évident que l'on s'est trompé sur ce qu'est le dialogue. On le confond avec une négociation qui a pour objectif d'arriver à une forme de consensus. Au contraire, le dialogue ne s'effraie pas des différences parce qu'il ne vise pas un accord qui nécessiterait des compromis. D'ailleurs, sur quoi et au nom de quoi un chrétien, un bouddhiste, un musulman ou un hindou pourrait-il se sentir autorisé à faire des compromis? En revanche, grâce au dialogue, les croyants peuvent arriver à une meilleure compréhension de leur histoire, de leur culture et découvrir leur interlocuteur. D'autres confusions sont fréquentes, faire du dialogue un débat où il y a un gagnant et un perdant, ou encore une simple conversation qui engage beaucoup moins que le dialogue. Pour vous, le dialogue nécessite une ascèse? En quel sens employez-vous ce mot? L'ascèse n'a ici rien à voir avec la pénitence, la mortification ou un mépris quiconque à l'égard du temps, du corps. Avec ce mot, je veux signaler que le dialogue exige un style, une manière d'être, qui est une attention aux autres et à soi. Il s'agit de cultiver certaines dispositions, ce que j'appelle les cinq amis du dialogue, le respect, l'amitié, l'humilité, la patience et l'écoute. L'ascèse ne réside pas dans des exercices compliqués qui mèneraient à l'écart de la vie commune, c'est ne jamais oublier que la vérité que je crois détenir est toujours plus petite que la vérité elle-même. Là encore, on est devant cette situation où ce que je sais, c'est simplement un petit bout de chose, et que la rencontre de l'autre me fera découvrir autre chose que ce que je sais. En conclusion, donc vous voyez, ça suppose une perpétuelle libération de soi, mais d'une manière plus, je vais peut-être le dire en conclusion, d'une manière plus institutionnelle, ça suppose que chaque institution meurt à croire qu'elle sait. Et donc c'est pour cela que je vous mets, bon là j'insiste pas, vous avez vu ce que j'ai déjà dit là-dessus, quand l'espoir n'est plus, il reste l'espérance. Là vous voyez tout ce qu'on a fait comme chemin depuis ce temps-là. Hein, et même l'espérance au cœur de ce qu'on disait hier, même lorsque c'est le plus difficile, quoi. La deuxième chose que je vous mets, le provisoire, l'incertain, c'est la seule chance de vivre l'humain. Le provisoire. Et je vous donne les quatre défis formulés en termes de processus. Qu'est-ce que j'ai comme défi? Une vérité à faire, parce que déjà là, et pourtant pas encore. Le déjà là et pas encore, t'en as causé un peu, Denis, mais c'est fondamental. Si on ne fait pas ça, il n'y a aucune espérance. Parce qu'on a déjà tout. Ou on n'a rien, oui. Le deuxième défi, c'est une église confrontée au séculier, ce qu'on a dit. Et donc, cette Église-là n'est plus appelée à être le centre, mais elle est un groupe qui travaille à ce que, de sa place, le monde puisse devenir le monde de Dieu. De sa place. Et non pas du centre. Troisième défi, une espérance à nourrir au cœur de situations de désespoir, mais que, comme on l'a dit depuis lundi, qui s'arc-boute sur le mystère pascal, c'est-à-dire c'est la victoire de la vie sur la mort. avec tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu as bien dit au niveau de la construction du royaume de Dieu et l'engagement en son cœur et l'accueil de ce qu'on reçoit. Et puis le quatrième défi, c'est une liberté. Alors souvent, quand je parle de liberté, je parle plutôt de travail de libération. Parce que peut-être que vous, vous avez la liberté totale, moi je ne l'ai pas. Je trouve que le travail de libération sur soi et sur l'autre, et avec l'autre, et au sein de l'institution à laquelle je participe, c'est toujours à remettre sur le métier. Et donc, si vous voulez, pourquoi je dis que le provisoire, c'est le fondamental, c'est la seule chance de vivre l'humain, parce que ça montre la relativité nécessaire, le provisoire nécessaire. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Benoît XVI, c'est qu'il confond la relativité et le relativisme. Or, il est absolument nécessaire, parce que la relativité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Car s'il n'y avait pas de relativité, je ne pourrais pas entrer en relation avec l'autre. C'est bien la même étymologie. Donc, bien sûr, si la relativité se confond avec le relativisme est mauvais. Mais traiter toute relativité comme du relativisme, ça n'est pas sérieux, puisque c'est fondamentalement humain. Troisième chose que je vous mettais, un pluriel à articuler, ben vous voyez bien que là, on est en plein... Comment ?
On lira l'article de
Jean. Oui, monsieur, oui, c'est ça. Hein. Et puis, on est en plein dans l'œcuménisme. Vous voyez, il est évident, ce que disait Girard, que ben, si on est dans une situation où on n'est pas capable d'accepter la différence, à condition que ces différences-là ne soient pas séparatrices, ne faisons pas l'œcuménisme, c'est tout. Et enfin, je vous mets pour moi, ce qui est le plus important, mais en même temps, c'est énorme ce que je vous mets là. Je vous ai mis la chair humaine, c'est le lieu de Dieu.
Le monde humain, c'est le lieu du royaume de Dieu.
Oui. Et je trouvais que c'était plus osé de parler de la chair humaine.
Ah non, mais je ne dis pas que c'est mieux. C'est que j'ai envie, moi, d'écrire.
Oui, tu mets le monde.
Le monde humain, c'est le lieu du royaume de Dieu.
C'est le lieu du royaume de Dieu. Ça veut donc dire que plus je serai humain, plus je rencontrerai possiblement Dieu. Ou possiblement je rencontrerai Dieu. Ça veut dire aussi, c'est une question très grave, est-ce que je peux rencontrer vraiment Dieu si je n'essaie pas d'être homme ou femme vraiment. Et je dis bien, je ne sais pas. C'est-à-dire que là aussi, c'est à situer dans la relativité de mon existence à un moment donné. Mais enfin, tout au moins, ce que je voudrais dire là, c'est si je n'essaie pas, si je n'ai pas comme premier souci de mon existence d'essayer d'être homme ou femme selon les cas. Qui porte ce que j'ai essayé de dire, c'est quoi le vivre humain, comment je mettais, quel était le véritable humain, sans doute que j'aurais difficulté à rencontrer le Dieu de Jésus-Christ, puisque Jésus lui-même m'a dit « Qui me voit, voit le Père ». Ça ne veut pas dire autre chose que « Regardez-moi dans mon humanité », c'est-à-dire tel, comme tu l'as dit tout à l'heure, en parole et en acte, et vous saurez qui est Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien aussi que selon les périodes de notre vie, selon les difficultés que nous pouvons avoir, selon les désespoirs qui vont pouvoir être les nôtres, il y aura sans doute, forcément, une possibilité de découvrir Dieu comme jamais je ne l'ai découvert avant. J'aime beaucoup, puis j'arrête là-dessus, j'aime beaucoup Guéché, qui est un théologien belge, et qui dit, en fait, quand on prend ce chemin de vouloir détecter l'humain en nos existences, on fait exister Dieu, c'est-à-dire on fait sortir Dieu, ou on fait sortir quelque chose de Dieu que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Je ne dis surtout pas que j'invente Dieu. Là, je me ferais brûler immédiatement. Mais Vous voyez bien dans votre vie, dans notre vie, le Dieu que nous confessons n'est pas forcément le même que celui d'il y a 15 ou 20 ans. Et tout ça parce que j'ai des expériences qui ont ponctué mon existence et qui font que le visage de Dieu s'est transformé. En sachant quand même, et je finirai là-dessus, que le vrai visage de Dieu se découvre sur la croix du crucifié et sur la résurrection. Et là, je reprends Moltmann. Jamais Dieu n'a été autant Dieu que sur la croix du crucifié. Et c'est la phrase que je vous mets en fin de parcours. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix.